9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison au programme de ce premier numéro de C'est arrivé cette semaine. Peut-on encore gagner une guerre? C'est la question que l'on se pose en effet en voyant les Américains plier bagages en Afghanistan après 20 ans d'occupation et les talibans reprendre le pouvoir. Peut-on encore gagner une guerre? C'est justement la question que se posait Gaïs Minassian dans son livre Les Sentiers de la Victoire. Il est notre premier invité ce matin. Je recevrai ensuite Ronan Folgoas qui couvre l'affaire Jubilard pour Le Parisien. Les avocats de Cédric Jubilard ont déposé cette semaine une demande de remise en liberté pour leur client incarcéré depuis le mois de juin. On va faire le point sur ce fait divers unique en son genre. Et l'on terminera l'émission avec Nathalie Reims qui publie un roman sur le harcèlement et la disparition, deux spectres qui hantent notre époque.
Europe 1.
Gaïs Minassian, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au Monde et l'auteur des Sentiers de la Victoire qui est paru l'année dernière aux éditions Passé Composé. Alors pourquoi l'Amérique, la plus grande puissance militaire de la planète, épaulée par la France et par la Grande-Bretagne, a-t-elle été incapable de l'emporter en Afghanistan en dépit des 2000 milliards qu'a coûté une guerre qui a duré une vingtaine d'années?
D'abord parce que la victoire ne dépend pas de l'investissement financier, matériel et humain. Dépend au départ d'une réflexion qui doit être à la hauteur de l'enjeu. Et apparemment, d'après ce que l'on sait, et je ne vous dis pas ça a posteriori 20 ans après, mais de ce qu'on disait, de ce qu'on écrivait, de ce que l'on réfléchissait à l'époque dès 2001, l'opération a été mal ficelée, un peu dans la précipitation, puisque on sait très bien que c'est lié aux attentats du 11 septembre. Donc, il y a au départ ce déficit de réflexion, le fait qu'on ne tienne pas compte de l'histoire, des leçons de l'histoire. On pourrait remonter comme ça jusqu'à Homère et l'Iliade, et notamment ce fameux récit de guerre, la guerre de Troie, avec notamment le rôle central d'Hector, qu'on a oublié.
Qui est le héros de Troie, le héros troyen.
Voilà, mais qui meurt le premier, mais qui est le porteur d'une éthique qui est celle de l'humilité. Et je pense qu'on est dans l'inverse depuis cette époque, c'est-à-dire que les puissances ne pensent que par l'usage de la force, le recours à la force, l'hubris. Et que ce soit George Bush fils, ou même ses successeurs, et pas forcément que les Occidentaux, mais la plupart des leaders, le politique est dans une sorte d'agenda différent de celui du militaire. Le militaire est beaucoup plus prudent que le politique. Le politique regarde tout de suite la montre électorale, alors que le militaire, lui, va s'occuper plutôt du terrain. Et je pense qu'on devrait écouter davantage les militaires, pas uniquement en France ou aux États-Unis, mais en général, on devrait écouter davantage les militaires. Donc, opération mal ficelée, puis la guerre sur deux fronts, vous le savez,
avec
l'Afghanistan et l'Irak. Et là, on sait, au moins depuis Napoléon, qu'une guerre sur deux fronts, il y a de fortes chances qu'elle débouche sur une débâcle ou une défaite militaire.
Mais alors justement, il y a l'Afghanistan dont on parle beaucoup en ce moment et pour cause, mais il y a aussi l'Irak, il y a la Libye. Militairement, ça se passe bien en général sur le terrain. On balaie facilement l'adversaire, que ce soit les talibans en 2001 ou les groupes armés islamistes au Mali lors de l'opération Serval en 2013. C'est sur la longueur que les Occidentaux perdent leur avantage. 7 ans après avoir libéré le Mali du terrorisme, comme le proclamait François Hollande à Tombouctou en février 2013, la France est toujours au Mali. Impossible d'enregistrer politiquement la victoire. Pourquoi ça se passe toujours de la même manière?
D'abord parce que dans une guerre, vous avez 4 opérations. En fait, la première opération, c'est la prévention. Attention, je vais intervenir. Le deuxième temps, c'est celui de la coercition. J'interviens avec les gros moyens. Le troisième temps, c'est la stabilisation. On nettoie les foyers de résistance, de tension. Et la quatrième, c'est la normalisation. On a du mal à passer de la deuxième à la troisième. Donc c'est pour ça que la victoire militaire n'est pas garantie. On peut renverser un régime, c'est ce qui est arrivé en Irak ou même en Afghanistan, mais on a du mal à stabiliser derrière. Donc dire que la victoire militaire est facile à obtenir, ce n'est pas vrai. C'est même plutôt faux. Il y a des victoires militaires, et notamment là avec les talibans qui viennent d'obtenir une victoire militaire et politique. Donc les deux réunis, ça fait une victoire stratégique. Et ce n'est pas pour autant qu'on peut parler de victoire. La victoire est un moment, est un, un processus en quatre temps cette fois-ci. Vous avez la victoire au sens militaire, c'est-à-dire vous remplissez vos objectifs de guerre. Vous avez la victoire au sens politique, vous remplissez vos buts de guerre. Puis vous avez, une fois que vous avez obtenu ces deux victoires, eh bien, vous pouvez penser à au troisième temps qui est celui de faire la paix avec votre ennemi, mais une paix inclusive, une paix juste, une paix de réconciliation et pas d'humiliation. Et le quatrième temps, c'est le dernier, c'est celui qui consacre votre victoire, c'est qu'en cas de nouveau litige, eh bien, vous n'avez pas recours à la force. Il vous manque un de ces quatre moments, vous n'avez pas de victoire. Et c'est pour ça que le modèle classique de la victoire par excellence, c'est 45 contre les Japonais et contre les Allemands. En revanche, celui de 18 est l'inverse. C'est une victoire stratégique, mais c'est une victoire qui se fait dans une paix injuste et d'humiliation et de punition. Résultat, la guerre de 39 est écrite dans les clauses du traité de Versailles. Et tant qu'on aura comme moteur de réflexion l'humiliation et pas l'humilité, eh bien on sera dans cette configuration d'une guerre inachevée, d'une victoire totalement fragile.
Mais Gaëtan Millescient, pendant deux siècles au moins, l'Occident a remporté presque toutes ses guerres en Asie ou en Afrique. Alors on peut se demander par quel miracle. On parle de de notre supériorité technologique. On l'avait à l'époque, évidemment, elle était flagrante, mais on l'a encore aujourd'hui.
Non, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je veux dire, l'Occident n'a pas gagné la guerre en Asie. Regardez, 1953, la Corée, c'est match nul.
Oui, oui, moi je parlais évidemment des guerres, les guerres de l'opium contre la Chine.
C'était plutôt des guerres coloniales, plutôt
oui,
que
des
batailles,
coloniales.
Plutôt des batailles même que des guerres. Alors on a mis le vernis de la guerre, tout le décorum de la guerre, parce qu'il fallait donner une forme de noblesse à ces opérations, ces expéditions. Mais en fin de compte, on s'aperçoit que les Américains n'ont pas gagné de guerre depuis 1945. Encore une fois, la Corée match nul. Le Vietnam, c'est une défaite. Alors certains pensent que ce n'est pas une défaite militaire, mais bon, à quoi bon ? À quoi ça a servi, finalement. Donc, c'est une défaite.
La guerre du Golfe.
La guerre du Golfe, 91, c'est une victoire, mais qui ressemble à celle de 1918, c'est-à-dire qu'on a voulu humilier Saddam Hussein, et la menace est toujours restée. Saddam Hussein est resté une menace, on l'a bien vu, donc la victoire est entachée. Alors, victoire militaire, oui, mais pas victoire politique. Et donc, non, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas uniquement l'Occident, c'est aussi l'ensemble des puissances, en fait, qui ont du mal à remporter des victoires.
Eh bien, on va en parler dans un instant, juste après une pause.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes toujours en direct avec Gaëtan Millescient, qui est journaliste au Monde et qui est l'auteur des Sentiers de la Victoire, qui est paru l'année dernière aux éditions Passé Composé, un livre qui était sous-titré « Peut-on encore gagner une guerre ?» Une question qu'effectivement on se pose aujourd'hui. Quand on lit votre livre, Gaëtan Millescient, on s'aperçoit que le tournant c'est au Vietnam, hein, où les Français sont battus militairement par le Viet Minh et les États-Unis perdent à leur tour, en dépit des tonnes de bombes qui déversent sur le Nord-Vietnam et des 500 000 soldats américains stationnés au Sud-Vietnam en 1969. Au fond, le Vietnam, si je vous écoute, c'est le dernier pays qui a remporté véritablement une victoire.
Oui, selon vos critères. Selon les critères, alors pas que les miens, mais selon les critères les plus consensuels pour définir une victoire. Oui, c'est le Vietnam. Donc c'est une puissance tiers-mondiste du Sud qui a servi d'ailleurs de modèle à toutes les guérillas qui ont suivi. Et d'ailleurs, pourquoi ? Parce que les Vietnamiens avaient compris nos propres faiblesses et savaient les instrumentaliser, les exploiter. Et on a eu après d'autres cas, l'Afghanistan, etc.
Oui, parce qu'après, il y a la Somalie en 1993, il y a l'Afghanistan, il y a l'Irak, la Libye, le Mali. Les interventions militaires occidentales se succèdent avec les mêmes résultats désastreux. À chaque fois, on aggrave le chaos.
Oui, c'est ce que je vous disais au départ, c'est-à-dire que vous êtes donc pris dans une l'hubris, dans l'outrance, dans l'excès, parce que le politique conduit la guerre. Alors ça, c'est Clausewitz qui le dit aussi, et donc vous voyez, c'est pas récent. Et le politique suit un agenda qui est différent, alors que le militaire est beaucoup plus prudent. Et puis le militaire dépend du politique. Alors, quand vous mettez l'accent sur l'Occident, effectivement, parce qu'on a eu ces 20 dernières années de guerre depuis l'Afghanistan jusqu'à celles qui ont en cours encore au Mali ou ailleurs. Mais si vous regardez bien l'agenda russe ou l'agenda turc, vous avez quasiment le même profil. Est-ce que la Turquie a gagné des guerres avec ses voisins depuis Daesh et compagnie ? Non. pas une victoire. Des succès ici ou là, mais pas de victoire. La Russie a perdu la Géorgie pour gagner l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie. La Russie a repris la Crimée, mais a perdu l'Ukraine. Donc c'est très difficile de définir une victoire, surtout quand on est aux prises avec une guerre de cette ampleur. Alors, les guerres hybrides, les guerres asymétriques, qui sont les nouvelles guerres, même si de plus en plus on voit dans le débat stratégique la menace classique faire à nouveau éruption.
La guerre entre deux États.
La guerre entre deux États.
Ce qui n'arrive plus. Normalement, la dernière fois, c'était la guerre Irak-Iran.
Voilà, mais on va vers des tensions entre les États-Unis et la Chine, donc vers une forme de nouvelle guerre classique. Je n'y crois pas trop, mais bon, admettons l'idée qu'il y a effectivement une tension. Mais de là, aller jusqu'à une guerre, c'est déjà autre chose. Et je pense d'ailleurs que cette affaire afghane avec le retrait américain est liée à ces tensions entre, je ne suis pas le seul à le dire, entre les États-Unis et la Chine. Donc, ces guerres, en fait, ces guerres contemporaines, ce sont des, en fait, à la différence des guerres classiques, ce sont des guerres que l'on pourrait considérer comme relevant du fait social total. C'est-à-dire que on oublie que aujourd'hui, les guerres sont des guerres qui sont menées à l'intérieur d'une population. Donc, il y a une base sociale. La guerre contre Daesh, la guerre contre l'Afghanistan, enfin les talibans, etc., se déroule sur l'idée que l'ennemi jouit d'une assise sociale. Et on ne peut pas faire la guerre contre un peuple. Et on ne peut pas impunément occuper un territoire, quel qu'il soit, quelle que soit la puissance occupante ou la puissance qui subit cette occupation. Et en fait, on s'aperçoit essentiellement que, d'un point de vue plus global, si j'ouvrais un peu le débat, ces guerres vont durer tant qu'il y aura cette confrontation invisible à l'œil nu, mais qui est là, qui est puissante, qui est sourde, entre un mémorial impérial, des puissances qui ont connu l'impérialisme comme un régime politique, et puis ce mémorial des humiliés. Tant que le mémorial impérial imposera au mémorial humilié sa façon de voir, on aura des guerres. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire revenir peut-être à la vertu de l'éthique d'humilité qui est celle d'Hector, qui dit en gros, si on va au conflit, voilà les conséquences. Et alors vous allez me dire, mais quel rapport entre hier et aujourd'hui et comment on peut définir un exemple? Eh bien, tout simplement Jacques Chirac, qui dit non à la guerre en Irak en 2003 et qui se comporte typiquement comme un Hector des temps modernes.
Au fond, d'après ce que vous dites, la victoire n'est plus possible. Et même aujourd'hui, les talibans à Kaboul, ils essuient leur premier attentat au pouvoir, alors qu'ils sont au pouvoir de la part de Daesh. Donc la victoire n'est pas acquise non plus
par
les talibans.
Vous avez
l'impression
raison.
Que, quand on lit votre livre, qu'il n'y a plus que des victoires que vous qualifiez de virtuelles.
Oui.
La victoire virtuelle, c'est George Bush proclamant que la guerre en Irak est remportée quelques mois après qu'il l'ait déclenchée. C'est François Hollande et Jean-Yves Le Drian au Mali en 2013. Pour eux, ça y est, l'affaire est réglée, on n'en parle plus. Et puis à chaque fois, on voit bien qu'il ne s'est rien passé encore. Tout est à vivre.
Alors, justement, vous avez raison de prendre l'exemple des talibans. Les talibans ont remporté une victoire militaire, une victoire politique. Ils ont une victoire stratégique. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il y a une victoire tout court derrière. Pourquoi? Parce que vous avez une résistance qui va s'organiser au nord, a priori, dans le Panjshir. Et on va savoir exactement si les talibans vont réussir à stabiliser le pays ou pas. Donc on ne peut pas encore parler de victoire. Puis ça peut ouvrir donc sur une guerre civile, et c'est la pire des guerres. Un peu comme au moment de la chute, le départ des soviétiques d'Afghanistan en 88-89, on a eu une guerre civile entre Massoud et Hekmatyar pendant 3 à 4 ans. Ensuite, pour la victoire virtuelle, effectivement, pourquoi? Parce que le politique pense que sur la base d'un succès militaire antérieure, on peut imaginer remporter une victoire pour un théâtre d'opération ultérieur. Et donc, vous pouvez reprendre Kennedy dans les années 60 avec la crise des fusées et qui ouvre la porte à l'opération en Vietnam. La crise des fusées n'est pas une victoire, c'est juste un match nul, mais bon, à l'époque, pour des raisons XY, on a considéré ça comme une victoire, j'ai peut-être pas le temps d'expliquer. Ensuite, vous avez Saddam Hussein en 88, il croit qu'il a gagné la guerre contre l'Iran. Personne ne lui dit non, tu n'as pas gagné. Et en fait, ça lance l'opération contre le Koweït, et ainsi de suite avec Bush, ou même Le Drian, et encore aujourd'hui.
Merci Gaïd Minassian. Les Sentiers de la Victoire, je rappelle que c'est paru l'année dernière aux éditions Passé Composé. On se retrouve dans un instant avec Ronan Folgoas. On va parler de l'affaire Jubilar.
9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
Bonjour Ronan Folgoas, vous êtes journaliste au service police-justice du Parisien et avec votre collègue Jérémy Famelé, vous avez publié cette semaine un long article intitulé « Les derniers secrets de l'affaire Jubilar », une affaire sur laquelle vous travaillez depuis 8 mois maintenant. Je rappelle que l'infirmière Delphine Jubilar, mère de 2 enfants, a disparu dans la nuit du 15 au 16 décembre dernier et que son mari, Cédric Jubilar, est en prison depuis le mois de juin où il clame son innocence. Une demande de remise en liberté a d'ailleurs été déposé cette semaine par ses avocats. Alors il faut dire que si c'est bien lui qui a assassiné sa femme, et on ne voit pas qui d'autre pourrait l'avoir fait, aucune autre piste n'ayant été retenue par les enquêteurs, donc si c'est lui le coupable, ce plaquiste de 33 ans peut paraître comme un criminel hors pair. Il n'y a pas de preuves matérielles contre lui, il n'y a pas de corps et il n'y a pas de scène de crime.
Effectivement, c'est la singularité de cette affaire, rien ne le rattache directement, matériellement, à une scène de crime. Des analyses ont été faites sur sa personne, sur son corps, dans les heures qui ont suivi la disparition de son épouse. Les enquêteurs et les légistes qui l'ont examiné n'ont absolument rien trouvé. Au domicile familial, évidemment, des investigations très précises ont été menées. Du Blue Star a été utilisé pour détecter des éventuelles traces de sang ou d'autres traces suspectes, mais rien, là encore, n'a été trouvé. Donc, d'un point de vue strictement matériel, il n'y a pas d'indice confondant, déterminant et qui l'incriminerait de manière claire et précise. C'est une somme d'indices que les enquêteurs ont glané, qui finalement ont conduit à sa mise en examen et son placement en détention.
On va revenir sur ces indices, mais d'abord, quelle est sa version à lui? Parce qu'il n'en a jamais changé, je crois. Hein.
Il se serait couché vers 22h30 le mardi 15 décembre, laissant sa femme et son fils devant la télévision. Et lui aura été réveillé dans la nuit par les pleurs de sa petite fille vers 3h45 du matin. Et en se levant, il aurait bien constaté l'absence de son épouse et dans le lit conjugal et dans le reste de la maison. Il serait allé à l'extérieur aussi. Il se serait comme ça aventuré dans la nuit jusqu'aux limites de sa propriété. Il aurait jeté un petit coup d'œil au niveau des voitures, mais sans inspecter réellement les voitures. Et puis il serait ensuite revenu à son domicile pour commencer à alerter les copines de Delphine en leur demandant si par hasard son épouse était chez elle. Et puis voilà, à 4h09 et 59 secondes exactement, il appelle la gendarmerie pour signaler la disparition de son épouse.
Alors dans ses versions, lui, il dit qu'elle est peut-être sortie promener les chiens. Ce serait possible ?
C'est une hypothèse qu'il émet effectivement en disant que oui, Delphine avait l'habitude de sortir le soir, promener les chiens vers 23h, minuit, que ça pouvait arriver. Mais cet élément-là est assez discutable. En tout cas, il est contesté par de nombreux témoignages dans l'environnement de Delphine Jubilar. Est-ce que Cédric Jubilar aurait menti aux enquêteurs en avançant cette piste de la promenade nocturne? C'est une possibilité. En tout cas, il n'y a rien d'avéré dans ce domaine. Sauf que les chiens, d'après le récit de Cédric Jubilar, les chiens, quand ils se lèvent là en pleine nuit, étaient, semble-t-il, à l'extérieur du domicile. Voilà.
Il a évoqué également l'hypothèse d'un départ pour le djihad. Ça paraît assez farfelu.
Oui, alors c'est une hypothèse qu'il émet sans aucune certitude, évidemment, hein, mais qui se base sur quelques petits changements de comportement de son épouse qu'il aurait observé dans les mois précédents. Elle aurait notamment abandonné la charcuterie, voilà ce qu'il a noté. Il l'aurait vu aussi un jour dans une posture qui évoquerait celle d'une prière musulmane, mais sans réelle certitude et sans pouvoir étayer réellement ses doutes. Hein. C'était C'était une hypothèse, voilà, une hypothèse parmi d'autres, mais qui a été étudiée et aussitôt refermée par les enquêteurs.
Alors il y aurait un mobile éventuellement à ce crime s'il l'avait commis, c'est que sa femme avait un amant, qu'ils allaient se séparer. D'ailleurs, la dernière chose qu'elle a faite, dont on est la preuve, c'est qu'elle a laissé un message à son amant ce soir-là, à 22h58. Il le savait, Cédric Jubilard ?
Il se doutait dans un premier temps bien que Delphine lui cachait quelque chose, et puis il avait fini par se dire que oui, elle devait avoir un amant. Après, toute la question, c'est de savoir s'il avait réellement acquis une certitude dans ce domaine, s'il avait, pourquoi pas, identifié cet amant. Et il semblerait, d'après des captures d'écran que les enquêteurs ont pu exhiber dans son téléphone et mettre en évidence, eh bien, il semblerait qu'il avait une connaissance assez précise de cette personne. Donc oui, ça a pu éventuellement constituer, pourquoi pas, un mobile, mais là encore, ça reste très flou. Pourquoi ce soir-là? Que s'est-il passé réellement dans l'intimité du couple? Est-ce que Delphine a dit des choses qu'elle n'avait pas encore exposées? Est-ce qu'elle a dit à Cédric, par exemple, que oui, elle allait quitter la maison d'ici quelques semaines, qu'elle allait emménager à Albi dans un appartement? Ça, on ne sait pas. Ce ne sont que des hypothèses pour l'instant.
Et enfin, il y a la couette. Alors la couette, ça, c'est très, très intéressant.
Avant que les premiers gendarmes arrivent sur place à 4h50, eh bien, on ne sait pas trop pourquoi, il fait une machine à laver. Il met en tout cas du linge dans cette machine à laver. Quand les gendarmes arrivent, mais il l'observe presque en train de fermer le hublot de la machine, mais ils n'ont pas la présence d'esprit, semble-t-il, de saisir immédiatement ce linge. Et ce n'est que 34 heures plus tard qu'ils vont revenir au domicile pour saisir notamment, entre autres choses, une couette et 4 chaussettes dépareillées. Alors cette couette, elle les intéresse parce que il semblerait que c'était la couette sur laquelle Delphine avait l'habitude de dormir lorsqu'elle faisait chambre à part.
Et pourquoi l'aurait-il lavée? Il a donné une explication
Oui, il a été interrogé évidemment et il explique que ses chiens, parce qu'il en a deux, aurait uriné sur cette couette. Sauf que cette couette a été donc lavée, hein, elle est passée, elle a été lavée au lave-linge du domicile des Jubilards et elle n'a été envoyée. Alors c'est ça qui est étrange, hein, c'est vrai, que pour expertise au laboratoire que fin juillet. Et ceci à la demande, semble-t-il, des avocats de Cédric Jubilard.
Sept mois après, voilà. Personne n'avait pensé à la faire analyser avant, à la police.
Là c'est un mystère, il doit y avoir une réponse, mais je ne la connais pas à ce stade.
On fait une pause, Ronan Folgoas, on se retrouve juste après, vous continuez de nous expliquer où on en est de l'affaire Jubilard.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Taddeï.
Nous sommes toujours avec Ronan Folgoas qui travaille sur l'affaire Jubilard pour le quotidien Le Parisien. Parmi les choses qui pourraient accabler Cédric Jubilard, je rappelle qu'il n'y a aucune preuve matérielle contre lui. Hein. Il n'y a pas de corps, il n'y a pas de scène de crime. Il est en prison depuis le mois de juin. Ses avocats, cette semaine, ont fait une demande de remise en liberté. S'il y a quelque chose qui pouvait l'accabler, c'est qu'il a proféré des menaces. Hein. Il l'a fait devant sa mère à lui, j'en ai marre, je vais la tuer, je vais l'enterrer, personne ne la retrouvera. Il l'a fait également devant un de ses copains.
Oui, et à une date qui est très rapprochée de la disparition de sa femme, puisque ça se passe le 12 décembre, donc 3 jours avant la disparition de Delphine Jubilard, et il lui confie que oui, ça ne se passe pas bien, j'ai envie de la tuer. Voilà les propos qui sont rapportés par ce témoin. Effectivement, ces phrases qu'il a dites auprès d'au moins 3 personnes directement entre l'été et donc ce 12 décembre, ça pèse relativement lourd dans ce dossier. Mais après, bon, il y a toute une ambiance en fait à l'intérieur du couple que les enquêteurs ont patiemment reconstituée, une ambiance très lourde où Cédric en fait passait beaucoup de temps à espionner sa femme, à essayer de traquer ses déplacements, de surveiller ses dépenses. Puis il y avait des accrochages, hein, des accrochages physiques qui ne débouchaient pas sur des violences, mais parfois, et ça c'est le fils, hein, le fils aîné de Cédric et Delphine Jubilard, qui n'a que 6 ans, hein, qui a expliqué eh bien que ses parents s'attrapaient par le bras régulièrement. Voilà, ce n'était pas des violences physiques telles que Delphine ensuite aurait pu s'en plaindre auprès de son entourage. Non, il n'y a rien de tel, mais il y avait quand même des tensions très fortes et très régulières.
Ce petit garçon de 6 ans, il était là ce soir-là, il est resté avec sa mère en bas quand son père est allé se coucher. Qu'est-ce qu'il a dit, lui? Il a été entendu par la police?
Il a été entendu 2 fois et... Alors c'est assez troublant, c'est vrai. Dans un premier temps, le procureur de la République de Toulouse, lors de sa conférence de presse du 18 juin, qui suit la mise en examen de Cédric Jubilard, il explique que le fils, hein, Louis, a entendu une grosse bagarre, une grosse dispute entre ses parents. Et en réalité, les magistrats d'ailleurs de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, hein, qui ont examiné... un appel formé par les avocats de Cédric au début juillet, eux ont une lecture assez différente de ces déclarations et ils disent qu'on ne peut pas en déduire qu'il y a eu une bagarre ce soir-là, d'après le récit en tout cas de Louis.
Et il dit avoir entendu. Le procureur aurait exagéré ?
C'est en tout cas ce qu'on peut penser, hein. En tout cas, après, qu'il y ait des lectures différentes, ça c'est classique, hein. il peut plus y avoir entre magistrats des points de vue divergents sur une même audition. Mais disons qu'il n'apparaît pas de manière claire et évidente qu'il y a eu une grosse bagarre, une dispute. Il n'a pas entendu, par exemple, Louis, il n'a pas entendu ces cris stridents d'appel au secours qu'aurait pu faire sa mère, des cris qui ont été entendus par des voisines, mais des voisines assez éloignées du domicile des Jubilards. Elles ont entendu ces cris, semble-t-il, autour de 23 heures, ce qui a évidemment très intéressé vivement les enquêteurs. Mais comment déterminer avec précision que ces cris provenaient bel et bien de la maison des Jubilards, ça c'est une autre question.
Il y a aussi la voiture qui aurait changé de sens au cours de la nuit. Elle était garée devant la maison, mais elle n'était plus dans le même sens le lendemain. Qui dit ça?
Alors, il y a deux témoignages, deux voisins. Un voisin qui habite juste à côté, qui se souvient très bien avoir vu la Peugeot 207 de Delphine garée dans le sens de la montée le soir, hein, et dans le sens de la descente au petit matin vers 7h30. Ce témoignage est confirmé par un autre témoignage, celui-là d'une amie de Delphine qu'elle croise plus tôt dans l'après-midi. Il est environ 17h et effectivement elle confirme que la voiture était garée dans le sens de la montée. Et les gendarmes, lorsqu'ils arrivent sur place et lorsqu'ils font cette constatation au petit matin, eh bien ils voient effectivement que la voiture est dans le sens inverse. Ce qui laisserait à penser, eh bien, que la voiture a pu éventuellement être déplacé dans la nuit.
On ne sait pas par qui.
Mais on ne sait pas par qui. Et puis surtout, rien ne prouve à 100% que la voiture n'a pas été, par exemple, déplacée, utilisée par Cédric ou Delphine, par exemple, entre 20h et 21h. Enfin, là encore, il y a des vérifications à faire, hein. Et les magistrats de la Cour d'appel de Toulouse suggèrent justement que des investigations complémentaires soient faites pour régler cette question.
Il y a eu une chance que la demande de remise en liberté qu'ont composée ces avocats cette semaine aboutisse?
A priori, ces chances sont très faibles à court terme. Tant qu'il n'a pas été entendu sur le fond par les juges d'instruction, sa remise en liberté semble très improbable.
Et quand est-ce qu'il sera enfin entendu sur le fond?
A priori, au début de l'automne, entre fin septembre et début octobre, d'après ce que l'on sait.
Une affaire donc qui reste très très mystérieuse.
Ah oui, elle est absolument, absolument rarissime, hein. Pas forcément unique, mais rarissime, parce que il y a un scénario criminel qui se dessine, une ambiance dans un couple qui se délite, et puis des attitudes suspectes la nuit de la disparition, et quelques éléments matériels autour.
Voilà, quelques
éléments matériels qui se greffent.
Voilà, quelques indices, mais pas de preuves matérielles, pas de corps et pas de scène de crime.
Exactement. Et tant que c'est ce que beaucoup d'observateurs de cette affaire disent, hein, c'est que tant que le corps, la dépouille de Delphine Jubilard ne sera pas retrouvée, il sera extrêmement compliqué de connaître la vérité, sauf si évidemment soit la personne actuellement mise en examen, Cédric Jubilard, ou une autre personne, passe aux aveux. Mais disons que la recherche du corps constitue l'un des objectifs prioritaires, sinon l'objectif numéro un des enquêteurs pour les mois à venir.
Merci Ronan Fogloas et rendez-vous dans Le Parisien où j'imagine que vous continuez de couvrir cette affaire. On fait une pause, on se retrouve juste après avec Nathalie Reims qui publie un nouveau roman sur la disparition elle aussi.
C'est arrivé cette semaine.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Et Nathalie Reims, bonjour Nathalie Reims.
Bonjour Frédéric.
Qui vient de me rejoindre dans ce studio et qui publie un nouveau roman, Danger en Rive, aux éditions Léo Cher. Alors je n'arrête pas de le dire, c'est un roman sur la disparition. Votre héroïne est un écrivain qui a brusquement renoncé à écrire et qui a choisi de disparaître à la campagne. Sa mémoire a en partie disparu. Elle est témoin sans le vouloir de la disparition d'une infirmière. Rien à voir avec l'affaire de Delphine Jubilard dont nous venons de parler. Mais elle trouve à cette occasion dans une Renault Clio abandonnée, un bracelet sur lequel est gravé le mot « disparaître ». Et la Renault Clio aussi va disparaître. C'est la disparition apparemment qui vous intéresse hein, dans ce roman.
Bah, la disparition, en fait, elle m'intéresse depuis toujours. Alors, jusqu'à maintenant, j'avais beaucoup écrit sur la disparition définitive, celle contre laquelle on ne peut rien, c'est-à-dire la mort. Et là, il m'intéressait beaucoup de cette année d'écrire sur un fantasme qu'on a tous, je pense, plus ou moins eu.
Et qu'on a de plus en plus, dites-vous moi, d'ailleurs.
Et que moi, je traîne avec moi depuis des années, qui est l'idée que tout d'un coup, à la faveur de quelque chose, d'une rupture, de quelque chose d'assez dramatique dans votre vie, on décide de tout larguer et de recommencer ou de poursuivre sa vie en coupant les liens et de tout ce qui vous entoure, avec l'espoir de pouvoir sans doute se débarrasser du passé, des secrets et des choses qui vous empêchent d'avancer, et de disparaître aux yeux de tous, ce qui, en plus aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, est un véritable exploit.
Oui, il faut se désabonner de pas de mal de choses. Que fait votre héroïne, d'ailleurs ?
Non, il faut déjà pas s'y mettre. Hein. Ça, à mon avis, c'est la première sagesse dans la vie, c'est de pas être sur les réseaux sociaux. Mais en l'occurrence, là, elle a un minimum. Hein. Elle va pas jusqu'à avoir Instagram et tout ça, mais non, elle se désabonne de ses chaînes télé, de tout ce qui l'encombre. Et même, à un moment donné, elle fantasme d'abandonner son téléphone, mais ce que vous n'avez pas dit, c'est que l'essentiel de sa vie se résume aussi à un chien roux qui s'appelle Paul, et elle garde uniquement son téléphone si jamais Paul se perdait, que quelqu'un puisse lire la médaille de Paul et l'appeler. Sinon, non.
Vous parlez d'Instagram, mais votre héroïne compare Instagram à un club échangiste.
Non, mais franchement, Frédéric, c'est ça. Enfin,
bah, oui, je sur Instagram, on n'a pas le droit d'être tout nu. Donc.
Non, mais si, mais on sait pire. Mais la nudité, c'est rien. La nudité, ça peut être très très beau, peu importe les corps, ça ne me gêne pas du tout. Moi, je refuse d'avoir Instagram parce que je refuse. Pour moi, c'est comme les vitrines qu'il y avait, je ne sais pas, peut-être ça existe malheureusement toujours en Belgique. Amsterdam, où les femmes sont comme ça en petite tenue se vendent. On voit des choses hallucinantes. Alors d'abord, c'est des jalousies parties où chacune va mettre le moins de petits trucs qui sortent sur elle. Où tout d'un coup, vous avez des folles qui changent de fringues toutes les deux secondes.
C'est vrai pour les hommes aussi, les garçons
sont
pareils. Non,
mais sûrement. Hein. Mais moi, par exemple, le soir, je consacre toujours une demi-heure à Instagram, comme j'avais une passion pour l'émission Striptease. Pour moi, c'est la même chose. Alors, il y a évidemment des Instagram passionnants, mais ce n'est pas ceux-là qui m'intéressent. C'est cette espèce de surexposition pour ne rien dire, pour des gens qui ne font rien. Oui, des injections dans la figure ou des chirurgies esthétiques ou des achats compulsifs. Enfin, je ne sais pas, moi, ça me dépasse complètement.
L'autre sujet de ce roman, auquel d'ailleurs toutes ces disparitions sont liées, c'est le harcèlement, ouais, qui est un mal de notre époque. Il faut dire qu'on dispose d'outils très efficaces de nos jours pour harceler les gens. Ah, c'est assez, oui, tentant, non?
C'est tentant. Et puis alors là, je pense aussi, sans être un sujet de notre époque, je crois que c'est vraiment le cœur du livre et aussi d'ailleurs le cœur des réseaux sociaux. Et bien même sans réseau social, je me suis aperçue que quelqu'un peut vouloir votre mort. Ça aussi, je pense.
Ou votre disparition.
Ou votre disparition, mais enfin, votre mort sociale, on va dire,
oui,
ou votre mort tout court. Et ce qui est intéressant et ce qui m'intéressait dans l'écriture de Danger en Rive, c'était pourquoi on accorde autant d'importance au harceleur. à celui qui a décidé de rentrer dans votre tête, de prendre le pouvoir sur votre esprit, quitte à ce qu'on fasse n'importe quoi pour perdre la mémoire. Et en fait, on se rend compte que la narratrice a perdu la mémoire pour oublier ce harcèlement permanent, cette espèce de désir de mort qu'elle ressent et de la peur qui la paralyse de ce harceleur qui la poursuit. Et c'est pour ça que la mémoire s'est enfuie. La mémoire, à un moment donné, va revenir et le harceleur aussi.
Il faut apprendre à devenir invisible. C'est ce qu'on a appris à votre héroïne. Vous pensez qu'aujourd'hui, c'est encore mieux, c'est encore plus vrai que jamais ?
Non, mais c'est juste un acte de courage, quoi. C'est-à-dire qu'en effet, moi aussi, on reparle d'Instagram ou de Facebook, j'ai bien conscience. Moi, quelquefois, et j'ai de la chance, je suis souvent très gâtée quand j'ai un livre qui sort, et je serais la première qui rêverait de mettre tout ce que j'ai fait, tous les articles qui me sont consacrés, toutes les émissions que je fais. Alors, j'ai créé une page et sur Instagram, Nathalie Reims, et puis à chaque fois, je me dis, allez, là, je mets quelque chose. Mais j'y arrive pas. C'est-à-dire, c'est pas que je veux disparaître. Je ne veux exister que comme écrivain et je ne veux parler que quand j'ai un livre qui sort. Sinon, je n'ai rien à dire. Et puis, ben oui, c'est pas sur les réseaux sociaux. Et ça donne un côté de plus en plus magique, où tout d'un coup, quelqu'un va écouter votre émission, ou tout d'un coup, quelqu'un va lire un article. C'était comme ça, et je préfère que pour moi, ça reste comme ça. Laisser les choses un peu à la magie, comme des rencontres.
Je l'ai dit, c'est un roman sur le harcèlement et la disparition, ouais, qui sont deux spectres de notre époque. Mmh. On aurait pu y ajouter le troisième, à mon avis, c'est la célébrité. Parce qu'au fond, à la fois, il y a la tentation de devenir célèbre.
Mais que tout le monde a.
Et voilà, et en étant célèbre, on a plus de chances de se faire harceler.
Et puis célèbre,
et troisièmement,
pourquoi
on veut devenir, et par la même occasion, on a envie de disparaître.
Ben, c'est-à-dire qu'on joue à apparaître. C'est-à-dire qu'on n'a plus qu'un but dans la vie, c'est d'être quelqu'un. Alors, ça ne veut rien dire d'être quelqu'un, parce qu'il suffit de montrer sa collection de sacs Hermès pour devenir quelqu'un, ce que je trouve pathétique. Donc, on monte ses sacs, on a des followers, et on devient quelqu'un. Sauf qu'au bout d'un moment, montrer ses sacs Hermès, ça ne va pas plaire à tout le monde. Donc, on va vous dire, comment tu les as eus, t'es ça. Enfin, tout ça est totalement, totalement hystérique. Donc, invisible, pas, parce que moi, j'aime bien apparaître, mais quand j'ai un livre qui sort, sinon, ma vie n'a aucun intérêt en
mais
dehors de mes
comme
livres.
Dit votre héroïne, une vie sans histoire, ça n'existe pas, Nathalie Reims. Donc non. La vôtre est pleine d'histoires aussi,
ah bah, la vie sans histoire n'existe pas, parce qu'en plus de ça, pour écrire, il faut avoir quelques histoires de vie quand même, ça c'est obligatoire.
Dernière question, est-ce que l'on peut enterrer le passé? Parce que ça aussi c'est une question importante dans votre livre.
On peut surmonter le passé. Je crois qu'en fait on ne peut pas l'enterrer malheureusement, mais on peut devenir suffisamment fort pour sortir de cette isolation dans laquelle vous met le harcèlement, et avec de l'aide ou pas, avec son chemin de vie, prendre le dessus sur le harceleur et retrouver une forme d'autonomie psychique. Ça, je pense que c'est très important.
C'est donc votre 20e rentrée littéraire. Votre roman s'intitule « Danger en rive ». Il vient de paraître aux éditions Léo Cher. « Danger en rive », ça veut dire quoi ?
Ça veut dire qu'il y a un panneau de signalisation. Je pense que vous l'avez vu. Tout le monde sans doute l'a vu sur les petites routes de campagne, c'est un triangle. Et en fait, ça veut dire accotement, mal stabilisé, donc possibilité pour la voiture de tomber dans le ravin.
Merci.
Merci Frédéric. Europe 1.
C'est arrivé cette semaine, se termine. On se retrouve demain à 9h. Vous avez maintenant rendez-vous avec Pierre de Villeneuve et les grandes voix. Bonjour Pierre.
Maintenant, bonjour.
C'est moi qui vous demande.
Oui, on est dans l'autre sens.
On a inversé
les
rôles.
Il y a un sac Hermès là qui reste, c'est celui de Nathalie Reims. On parle avec les grandes voix, avec grand plaisir, avec Michel Cotta, Catherine Ney, Gérard Carrérou et Charles Villeneuve, de la situation en Afghanistan, la fin des rapatriements, la frappe américaine hier soir, la primaire à droite façon puzzle, et puis le Covid au cœur de la rentrée politique et sociale, et ces anti-vax qui parfois deviennent des repentis.
Merci Pierre, bonne émission.